Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sans doute, il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Mes très chers frères, nous sommes aujourd'hui parvenus au 10e dimanche après la Pentecôte. L'Église estime que nous avons su tirer profit des enseignements qu'elle nous a dispensés jusqu'à présent, qui, nous l'avons vu, étaient roboratifs et surtout au début de cette deuxième partie de l'année liturgique, concernaient spécialement la charité, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Donc l'Église, estime que nous avons su tirer profit des enseignements qu'elle nous a dispensés jusqu'à présent, de telle sorte que la doctrine que renferment les textes de ce jour concerne les justes. Les justes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les chrétiens qui, ayant dépassé le stade d'une concupiscence qui prévaut en eux, sont installés dans l'habitude, la bonne habitude, bien entendu, de l'amour de Dieu, de telle sorte que le péché est devenu plus rare. Il faut bien que chacun reçoive la doctrine dont il a besoin. Donc, cette doctrine pour aujourd'hui concerne surtout les justes, et nous allons voir que ce n'est pas parce qu'on est juste qu'on est au-delà de toute tentation, et même c'est, si l'on peut dire, c'est à partir de ce moment où on rencontre de vraies tentations, sachant que les tentations jusque-là avaient été des tentations plutôt grossières. Là, on rentre dans le domaine des tentations subtiles, plus subtiles, disons, de telle sorte que nous devons prêter l'oreille. Parce qu'il n'y a aucun moment dans notre vie chrétienne où nous n'avons à apprendre quelque chose et surtout où nous n'avons à être vigilants. Alors nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, trois points à développer aujourd'hui. Nous verrons tout d'abord un principe qui est souvent méconnu et qui est la nécessité de l'appartenance à l'Église pour se sanctifier. C'est tout bête, mais encore faut-il y penser. Nécessité de l'appartenance à l'Église pour se sanctifier, et nous verrons aussi d'où vient toute justice. Ce qui nous amènera à notre deuxième point, où nous parlerons de la doctrine de l'humilité, humilité qui est la condition pour conserver la justice. Et nous nous livrerons à huit considérations sur l'humilité. Et nous terminerons par en voyant comment se vérifie l'humilité, pour voir si nous avons vraiment une humilité vraie et non pas une humilité feinte. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il y a, dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Mes très chers frères, un principe particulièrement nécessaire et particulièrement nécessaire à connaître et particulièrement méconnu de nos jours est le suivant. Le chrétien est membre d'un corps. Ce corps est doté de l'unité qui est la condition de sa vie. Ce corps, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité de ce corps n'est autre que l'unité de l'Église, l'unité de la vie. Si nous avons un corps même un corps physique qui est en morceaux avec une jambe par-ci, un bras par-là, la tête quelque part ailleurs, on peut dire on avait un corps et désormais on n'a plus qu'un cadavre dépecé. Le corps mystique du Christ, nous en dirons deux mots très rapidement parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais enfin c'est en connexion avec notre sujet. Le corps mystique du Christ n'est ni une société de type naturel, encore qu'elle soit composée d'hommes qui sont dans l'état de voie, donc il y a un aspect naturel bien entendu, mais elle n'est pas le corps mystique du Christ, l'Église n'est pas une société de type naturel. Le corps mystique du Christ n'est pas non plus une société qui doit encore advenir. Si elle n'était pas avant nous, nous ne pourrions pas en faire partie. Le corps du Christ est une réalité qui tient son unité indéfectible, de l'unité du Fils éternel de Dieu. Ce sont des considérations tout à fait banales, bien entendu, mais encore faut-il bien les prendre en compte, surtout à notre époque, évidemment, si ce n'était pas notre époque, peut-être que nous n'en parlerions pas de cette manière-là, encore que ça soit toujours bon à savoir, et les hérétiques et les schismatiques ont toujours voulu déchirer le corps, sinon le corps mystique du Christ, du moins sa tunique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent être catholiques et qui ne font pas, selon toute évidence, réellement partie du corps mystique du Christ. Ce sont des gens qui s'imaginent faire partie du corps mystique du Christ, je le veux bien, alors l'imagination est très puissante, bien entendu. Mais ce ne sont pas des gens qui ont été hantés dans cette vigne, ou dans cet olivier plus précisément, d'une façon qui soit sensible, qui soit légale, si j'ose dire, qui corresponde à la réalité. Un chrétien, donc, est membre d'un corps, et ce corps, c'est le corps mystique du Christ, qui est une réalité qui nous dépasse, qui est une réalité qui n'est autre que celle de la divino-humanité du Fils éternel de Dieu. La soumission au pasteur légitime rend possible non seulement la justice, non seulement la fruition, donc la justice bientôt, mais la justice développée, c'est-à-dire le fait de porter du fruit à la gloire de Dieu, mais encore l'utilité pour l'Église. Saint Paul parle de l'utilité pour l'Église, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. Beaucoup de gens se croient utiles à l'Église, mais en réalité, quand on y regarde bien, c'est une Église imaginaire. Ou bien c'est une Église qui doit encore advenir, certes pas entièrement, mais c'est une Église qui doit retrouver un pape catholique, comme on dit, c'est un pléonasme, le pape est nécessairement catholique, ou alors il n'est pas pape. Enfin, c'est l'Église qui doit retrouver son pape, et entre-temps, l'Église, alors tout le monde est plus ou moins d'accord, surtout à notre époque, mais entre-temps, l'Église est une sorte de chose informe, relativement vide d'ailleurs, qui est émaillé de ci, de là par des évêques, dans la mesure où secrètement on les agrée, et surtout l'Église est composée d'une multitude d'atomes épars, chacun œuvrant pour l'utilité de cette Église imaginaire. On est véritablement dans le protestantisme, on est avec la notion d'Église invisible, que jamais personne n'a vue ni ne peut voir, on n'est pas dans la doctrine catholique, que je sache. L'Église est visible, et la visibilité de l'Église, le plus banal manuel de théologie vous dira que la visibilité de l'Église, ce n'est pas sa notoriété, etc., c'est le fait qu'elle possède une structure hiérarchique réelle. Il faut qu'il y ait, pour que l'Église existe, il faut qu'il y ait des évêques qui constituent l'armature ordinaire, si l'on peut dire, ou générale de l'Église. Bien sûr qu'il y ait le pape, qui est le prince des évêques, mais il se trouve que l'Église ne disparaît pas. Il y a eu des temps, il y a eu une multitude de temps où le pape n'était pas là, dans les interrègnes, sans parler des catastrophes, des crises, mais dans les interrègnes, l'Église ne s'éclipse pas, l'Église ne disparaît pas lorsqu'un pape meurt et qu'un pape et un autre le pape suivant n'est pas encore élu. Donc il se trouve que à strictement parler, la visibilité de l'Église tient à la présence des évêques qui sont les princes de l'Église et qui sont ceux qui ont été qui ont reçu la plénitude du sacerdoce pour régir, entre autres choses, mais surtout pour régir l'Église. Un évêque qui est sacré pour ne pas régir l'Église, pour n'avoir eu aucune place dans la hiérarchie, mais qu'est-il ? Il est une parodie d'évêque, il est un non-évêque, il ne correspond même pas à la notion minimale de base que l'on peut donner à l'épiscopat. Donc, sans entrer dans les détails, l'Église est une structure qui subsiste, quelles que soient les avanies du monde sublunaire, quelle que soit la durée de la vacance du Saint-Siège, qui est la fonction suprême dans l'Église, il se trouve qu'il y a eu une multitude de fois dans le temps, dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, où l'Église a été sans pape, pendant un certain temps, bien sûr pas indéfiniment, pas structurellement, mais pendant un certain temps, il n'y a jamais eu une seule seconde dans toute l'histoire de l'Église où l'Église a été sans évêque. Vous voyez, c'est normal, les évêques sont plus nombreux que le pape. Mais justement, c'est pour cela qu'ils sont nombreux. C'est pour qu'ils ne puissent pas, même s'il y avait un très grand massacre d'évêques sur un continent, l'Église, la visibilité de l'Église puisse continuer à exister en soi par la présence et l'existence des autres évêques. Il y a eu des temps où il n'y avait pas de pape, il n'y a jamais eu un seul instant, un seul fragment d'instant où il n'y a pas eu d'évêque. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous ne disons pas cela pour magnifier l'épiscopat au détriment de pontificat suprême, ce n'est pas du tout ça notre but, mais nous disons que l'Église, sa visibilité, est en lien avec les évêques. Il se trouve que si nous voulons nous sanctifier, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, donc si nous voulons être sauvés à un certain moment après notre mort, il se trouve que nous devons nécessairement faire partie de ce corps mystique de l'Église, et ce corps mystique de l'Église, on ne peut en faire partie, sinon imaginairement, mais réellement, que par le ministère des évêques et bien sûr des prêtres qui leur sont inféodés, qui sont liés à eux, bien entendu. Voilà pourquoi, malheureusement pour ceux qui s'imaginent, mais un prêtre qui n'aurait pas d'évêque est un prêtre qui est incapable de faire rentrer dans l'Église, puisque lui-même n'est pas dans l'Église. Vous voyez, quelqu'un qui s'imagine être catholique parce qu'il a reçu le baptême dans la néo-église et puis que tout d'un coup il a fait le constat de la vacance, cette personne-là a besoin d'être officiellement hantée, greffée dans l'Église, rattachée, agrégée, incorporée dans l'Église. Et cela ne peut se faire que par la voie hiérarchique, que par la voie du ministère, de ceux qui sont actuellement, quel que soit son état de délabrement, mais ceux qui sont actuellement appointés par Dieu, par la Providence, pour régir l'Église. Sinon, eh bien, la porte de l'Église serait fermée. Or, nous savons que ce n'est pas encore le moment. Il viendra un temps où la porte de l'arche se fermera, mais ce n'est pas encore le temps. Donc, puisque la porte est encore ouverte, il faut bien qu'il y ait des ministres pour faire rentrer officiellement, à moins qu'on ne rentre dans la bergerie par-dessus, en passant par-dessus le mur, et alors là, on est effectivement un voleur, un mercenaire et un illégitime, bien entendu. Donc, vous voyez, mes très chers frères, si nous voulons nous sanctifier, si nous voulons pouvoir vivre et perdurer jusqu'à la fin de nos jours dans cet état de justice qui est l'état normal pour le chrétien, il nous faut encore en amont faire partie réellement de ce corps mystique du Christ, de telle sorte que nous ne perdions pas notre temps et nos forces et notre bonne volonté dans des efforts qui sont des efforts, somme toute, qui ne diffèrent en rien, ou si peu, des efforts de ceux qui sont dans les autres religions, ou des mécréants de bonne volonté, les gentils, les mécréants qui ne sont pas totalement méchants, des efforts certes, mais des efforts fructueux, des efforts méritoires, non. Oui, mes très chers frères, donc il nous fallait parler un tout petit peu de cette nécessité de l'incorporation officielle dans l'Église par le biais de ses ministres légitimes, et bien sûr le fait de rester soumis aux pasteurs légitimes, de telle sorte que nous puissions comprendre et plutôt bénéficier de la doctrine que l'Église a à nous enseigner sur l'état de justice, l'état de grâce, l'état de justice, l'état de fruition, de vie à la gloire de Dieu. Il n'y a pas de justice. Il n'y a de justice possible que dans la mesure où l'on participe à la vie du corps mystique du Christ auquel on est régulièrement uni. Régulièrement, c'est-à-dire selon les règles. Donc, nous disons cela, au risque de paraître un peu hors sujet, ce n'est pas du tout le cas, vous allez le voir, parce que tout ce que nous allons dire à partir de maintenant n'a aucune possibilité d'être mis en pratique réellement à salut si on n'est pas réellement incorporé dans le corps mystique du Christ, et qu'on n'est pas rentré véritablement par la porte, et qu'on n'a pas simplement, on n'est pas simplement dans l'illusion d'avoir été, d'être catholique simplement parce qu'on fait le constat de la vacance, alors qu'en réalité on est un néo-catholique que jamais rien ni personne n'a détaché de l'Église, la fausse Église dans laquelle il est né et il a été baptisé. C'est dramatique parce que en réalité le nombre de catholiques, de vrais catholiques aujourd'hui est infime. Et le nombre de ceux qui se croient vrais catholiques est infime, et parmi ce nombre infime, il y en a une très grande proportion qui ne sont pas catholiques. Que Dieu nous garde, que Dieu nous convertisse tous, et que Dieu fasse rentrer la totalité des nations dans la dignité israélitique. C'est là notre prière, avec celle de l'Église, bien entendu, mes très chers frères. Saint Paul nous dit « pour l'utilité de l'Église ». Il y a diversité d'opérations, mais il n'y a quand même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. L'utilité de l'Église, encore une fois, je le répète, ce n'est pas l'utilité de l'Église à venir, ce n'est pas l'utilité de la chrétienté à venir, dont l'Église sera la motrice ou la grande conseillère, on est pour le retour de la chrétienté, la restauration de la chrétienté, donc unissons-nous aux députées brésiliennes qui ne sont pas du tout féministes, c'est pour ça qu'elles sont là où il faut, unissons-nous à tous les néo-catholiques qui aiment la messe de 1962 et qui n'a strictement rien à voir avec la messe traditionnelle, bénissons-nous à tous ces gens afin que, eh bien, l'Église puisse être débarrassée de la fausse hiérarchie. Mais très cher frère, ce discours est un discours insensé. C'est un discours qui est beaucoup plus qu'insensé, c'est un discours trompeur. C'est un discours qui est un discours qui vient de l'ennemi de nos âmes, c'est un discours satanique, et surtout c'est un discours qui est très digne de Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II, quand on le voit à Assise, dans la première réunion d'Assise, avec sans parler des petits pots de fleurs dans leurs mains, mais avec tous les gens, avec les bonzes, avec des protestants, des schismatiques, avec des amérindiens, des sorciers noirs, etc., que sais-je, et puis d'autres encore que j'oublie, eh bien, finalement, il n'est pas dans une situation d'œcuménisme bien plus différentes que ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent faire des chaînes de prière avec des gens qui viennent des ralliés, des instituts d'Ecclesia Dei, des CD privationnistes, des CD vacantistes, des gens qui sont reliés à des vagus, des gens qui sont reliés à des évêques dans l'ordre, etc. Et prions tous ensemble, l'essentiel c'est de prier tous ensemble pour que qu'advienne enfin le grand monarque et le grand pape, le saint pape et le grand monarque, que sais-je. Mais très chers frères, tout ceci est de l'illusion. Et si ce n'était que de l'illusion, on pourrait dire tout ceci est finalement risible. Mais il en va de la perte d'un nombre très grand dans ce microcosme catholique, catholicoïde, il en va dans la perte d'un nombre très grand d'âmes qui s'imaginent recevoir leur pain quotidien de doctrine en écoutant les podcasts, ou plutôt les monologues de tous ces gens-là, alors qu'en réalité, ils sont la seule voie qu'on leur indique, c'est la voie de l'œcuménisme, c'est la voie du relativisme, c'est la voie de l'orgueil aussi, parce que se dire qu'on est pour la restauration de la chrétienté, etc., c'est quand même, il ne faut quand même pas être très humble pour dire cela, et ensuite, c'est surtout la voie de la perte de nos âmes. Parce que si, finalement, l'Église est une entreprise participative dans laquelle chacun doit apporter sa contribution, quel que soit son degré de nucisme, de non-nucisme, etc., afin que l'Église puisse redevenir ce qu'elle était, la société ce qu'elle était, etc., non seulement on n'arrivera à rien, mais encore on ira directement en enfer. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on est dans ces dispositions-là, c'est la preuve flagrante que l'on n'est pas membre du corps mystique du Christ. Nous pourrions donner encore d'autres explications à tout cela, mes très chers frères, mais il faut rentrer dans le vif du sujet avec l'aide de Dieu. Donc, vous voyez, l'utilité de l'Église, non pas l'Église à venir, mais celle qui est, et celle qui est dotée des promesses d'indéfectibilité de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit que nous serions toujours dans les situations, dans des circonstances idéales. Notre Seigneur a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il serait avec nous tous les jours, bien entendu, spirituellement, ce qui est vrai, mais beaucoup plus spécialement aussi. Il est avec nous par le Saint-Esprit, alors. Mais il est avec nous par, bien sûr, la présence réelle. Et pour qu'il soit avec nous par la présence réelle, il faut qu'il y ait des prêtres. Et pour qu'il y ait des prêtres, il faut qu'il y ait des évêques. Donc, notre Seigneur sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par la présence essentiellement des évêques, qui sont non seulement là pour donner à l'Église l'enseignement et les prêtres et les sacrements dont elle a besoin, mais aussi pour perpétuer la visibilité de l'Église, de telle sorte que notre Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, et non pas d'un temps, comme certains rigolos le disent. Non, il sera avec nous jusqu'à ce qu'il revienne juger les vivants et les morts et le monde par le feu, qu'il nous trouve fidèle jusque-là, quand il viendra. Il n'y a donc de vie spirituelle, mes très chers frères, que dans l'Église. Il fallait le dire, parce que sinon je serais un trompeur, je serais, si pour prendre les paroles de notre Seigneur, je serais comme vous, je serais un menteur. Il fallait le dire, à partir de maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il n'y a de possibilité de vie spirituelle que dans l'Église. Or, cela dit, nous sommes avertis. La justice, qui est source de mérite pour les justes, eh bien, c'est un même et unique esprit qui l'opère. C'est saint Paul qui le dit à la fin de cet épître. C'est un même et unique esprit qui l'opère. La condition pour perdurer dans la vraie vigne, ou dans l'olivier franc, le vrai olivier, il y a trois conditions. Premièrement, que nous demeurer à sa place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est incorporé dans l'Église, une fois qu'on est agrégé à l'Église, il faut fructifier à sa place. Quand on greffe dans un arbre fruitier, quand on greffe une branche, eh bien, on la greffe Et on n'est pas censé l'enlever de là où elle a été greffée pour la mettre ailleurs en fonction que le soleil est, lui, plus fort de tel côté de l'arbre et par ailleurs, etc. Une fois qu'on est greffé dans l'arbre, on y reste. Tout le monde sait très bien que si on commence à couper et à déplacer les branches qui sont greffées, elles vont mourir. Parce que déjà, c'est une opération délicate. Alors, ce n'est pas une opération à répéter. Donc, que chacun reste à sa place. Il y a bien sûr un léger bémol à cela, dans le sens où un laïc peut devenir clerc, un clerc ou un laïc peuvent devenir religieux, etc. Donc, on peut, si la Providence veut, qu'on peut changer d'état. Mais changer d'état, ce n'est pas changer de place constamment. Être dans un état pendant un temps de sa vie et puis être dans un autre état à un autre moment, c'est, si j'ose dire, c'est presque une normalité. La seule chose, changer de place et changer sa place de par sa volonté propre, là, cela rend non seulement impossible la fruition, mais encore cela rend très douteux le fait même qu'on soit membre du corps mystique du Christ. Ou alors, on va, d'une manière ou d'une autre, on risque, en faisant n'importe quoi, on risque de se trouver dans une situation de schisme. Et c'est la situation qui est terrible. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas pollué par l'hérésie, mais on est retranché par le schisme, de telle sorte que on pourrait être un membre vivant du corps mystique du Christ, et on n'est plus qu'un membre retranché, et la plupart du temps retranché par ses propres bêtises. Que Dieu nous garde. Donc, première condition pour persévérer et perdurer dans la vraie vigne, demeurer à sa place. Que chacun, c'est saint Paul qui le dit, c'est pas une invention de nous, que chacun persévère à la place de là où il a été, où il a reçu la foi. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, demeurer à sa place. Deuxième condition pour perdurer dans la vraie vigne, porter du fruit. Oui, parce que nous savons que même si nous demeurons à notre place, nous pouvons être stériles. Et il se trouve que si la patience de Dieu est très longue et nul n'en connaît la durée, il se trouve que, et qui est très longue, nul n'ignore non plus ce que dit notre Seigneur dans le fameux 15e chapitre de Saint Jean, où il dit que le sarment qui ne porte pas de fruit, il est retranché. Donc, vous voyez, pour perdurer dans la vraie vigne, il ne s'agit pas simplement de rester à sa place, ce qui est déjà, ce n'est déjà pas évident, mais il faut rester à sa place, mais rester à sa place, c'est porter du fruit. Si on reste à sa place, c'est très bien, mais si on ne porte pas de fruit, eh bien on sera retranché. Quel malheur que d'avoir compris la doctrine de l'État, que de demeurer à sa place dans son État, et Dieu sait si c'est rarissime à notre époque, et que de ne pas porter de fruits. Parce que nul ne peut jamais dans la vie chrétienne se glorifier, c'est la grande leçon d'aujourd'hui, se glorifier de ce qu'il est déjà, même par la grâce de Dieu, et surtout par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai compris la doctrine de l'État. Par la grâce de Dieu, je ne sors jamais de mon État. C'est très bien, mais par la grâce de Dieu, est-ce que vous fructifiez? J'ai oublié de fructifier. Eh bien, c'est très mal, parce qu'on sera retranché. Celui qui reste dans son État, mais qui ne porte pas de fruits, sera retranché. Quel dommage que d'avoir bien commencé et de terminer mal. Donc, deuxième condition pour perdurer dans la vraie vie, porter du fruit. Et troisième condition, en tout cas pour notre propos d'aujourd'hui, c'est de pérenniser le fruit. Il ne s'agit pas d'avoir porté du fruit à un certain moment. Nous avons eu, dans la propriété, nous avons eu cette expérience qu'un très vieil arbre fruitier, après avoir porté du fruit dans sa jeunesse, beaucoup de fruits, comme un peu décliné, et puis une année, il a porté énormément de fruits. Donc on peut dire, cet arbre porte énormément de fruits, il a porté énormément de fruits. L'année d'après, il était mort. Parce que effectivement, il se trouve que c'est une sorte de chose qu'on rencontre dans la nature, c'est que avant de mourir, les arbres fruitiers, il peut arriver qu'ils portent beaucoup de fruits une fois, et puis après qu'ils meurent. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Il ne s'agit pas de dire « j'ai porté du fruit à un certain moment de ma vie chrétienne, à un certain moment de ma vie, j'ai porté beaucoup de fruits, oui, et maintenant, est-ce que vous portez encore du fruit ? Mais maintenant, je suis mort. » Vous voyez, mes très chers frères, ce n'est pas le but. Il faut pérenniser le fruit. Il faut que nous portions du fruit, vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux porter raisonnablement du fruit chaque année, plutôt que de porter d'une façon gigantesque et faramineuse du fruit une fois et de mourir après. Alors, évidemment, ça ne se décide pas toujours, forcément, mais il se trouve qu'il ne s'agit pas de viser à la performance de porter le plus de fruits possible chaque année, plus de vertus, plus de fruits. Si déjà, chaque année, on peut faire aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire demeurer à sa place, porter du fruit à la gloire de Dieu, rapporter toutes nos actions à Dieu sans jamais les rapporter à nous-mêmes, c'est un bon gage de persévérance avec l'aide de Dieu. Donc, pour pérenniser le fruit, comment faire? Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut l'humilité, mes très chers frères. Il faut l'humilité. C'est la grande leçon que l'Église donne aux justes aujourd'hui. Il faut l'humilité. Alors, en quoi consiste l'humilité? C'est notre deuxième point. Dans l'oraison, qui est une très belle oraison que nous ne ferons qu'effleurer aujourd'hui, il est dit « Ô Dieu, dont la toute-puissance se manifeste principalement dans le pardon et la pitié. » Si nous méditions simplement ce début de phrase, ce début d'oraison, cette affirmation en réalité, elle nous enseignerait beaucoup sur l'humilité. « Ô Dieu, dont la toute-puissance se manifeste principalement dans le pardon et la pitié. » Sans faire un commentaire littéral de ces paroles, gardons-les à l'esprit, vous allez voir que nous y reviendrons fréquemment. Nous disions que pour pérenniser le fruit que nous portons lorsque nous demeurons à notre place dans notre état, il faut l'humilité. C'est bien sûr la morale de cette parabole du pharisien et du publicain que tout le monde connaît. Il n'a pas été humble alors qu'il était juste, eh bien il a perdu sa justice, tandis que l'autre qui était un pécheur, eh bien a été justifié par le fait que détestant son péché, il s'est humilié devant Dieu en se reconnaissant pour ce qu'il était, c'est-à-dire un pécheur. L'humilité, la première caractéristique de l'humilité, mes très chers frères, c'est que l'humilité commence par la connaissance de ce que nous étions par la nature et de ce que nous sommes devenus par la grâce. C'est-à-dire que même si nous n'avions que ce seul point à nous souvenir, eh bien, ou retenir, il faudrait que nous comprenions que l'humilité consiste dans la connaissance de ce que nous étions par la nature, quand nous étions enfants d'Adam, et de ce que nous sommes devenus par la grâce. Il se trouve que, surtout à notre époque, ceux qui ont perduré dans l'innocence baptismale de leur enfance sont très rares et sont même peut-être inexistants, sauf de ci, de là, bien entendu, il faut croire que ça existe, mais aujourd'hui, nous venons, comme étant donné le contexte qui est ce qu'il est, il est comme il est, c'est pas ça le problème, mais nous venons souvent d'arrière-plan où nous avons connu la vie selon la concupiscence, la chair, le diable, le péché, selon le monde, pour tout dire, et nous avons connu la différence. Eh bien, l'humilité consiste à ne jamais oublier ce que nous avons été. Alors, comprenez bien, il ne faut pas être constamment en train d'avoir une idée et un souvenir très précis de ce que nous avons été, de ressortir les photos, les albums, les vidéos, etc., et se gargariser de tout cela. Tout ceci, il faut le détruire, mes très chers frères. Il ne faut pas que des traces de notre vie passée puissent exister volontairement. On fait ce qu'on peut, évidemment, surtout à notre époque, mais disons qu'il ne faut pas, se gargariser d'un passé dont nous rougissons à présent, comme disait saint Paul dimanche dernier. Donc, quelles sont ces choses autrefois dont vous rougissez à présent? Donc, il ne s'agit pas de s'en souvenir avec une certaine satisfaction, il ne faut pas, face à ses enfants, sortir les photos de ce que nous étions lorsque nous faisions la fête, dans notre jeunesse, comme des malades, etc., et puis dire, ouais, regardez ce que j'ai été, etc. Tout ceci est très mauvais, c'est un scandale en réalité, il ne faut pas en parler, il ne faut le moins possible, et jamais avec vanité, jamais avec satisfaction, ou même avec autodérision. Vous savez, il y a une façon d'avoir d'autodérision qui est une forme cachée, disons, d'orgueil. Il faut dire que j'étais un sacré buveur au Thomas Jeunesse, ah, c'était pas bien. Oui, mais vous voyez, c'est pas des paroles de contrition. C'est pas. Et si c'était vrai et que vous n'êtes plus comme cela par la grâce de Dieu, eh bien, ne parlez pas de ce dont vous rougissez aujourd'hui. Et veuillez plutôt que les gens l'oublient, qui vous ont connu, et que ceux qui ne l'ont pas connu ne le sachent pas. Non pas que nous le cachons comme si nous voulions refaire notre histoire, mais il y a des choses dont on ne parle pas, et si jamais on devait en parler, c'est toujours pour donner un exemple de victoire de la grâce de Dieu qui, quelle que soit notre situation, peut toujours nous tirer d'affaire et de quelle que soit l'abjection dans laquelle nous sommes, il y a toujours une façon de s'en sortir parce que c'est le propre de la grâce de Dieu que de dénouer les liens les plus inextricables. Donc ce n'est pas là la question. L'humilité ne consiste pas donc à se gargariser, vous l'avez compris, de ce que nous étions autrefois, mais de se souvenir que lorsque nous étions sans Dieu, nous ne pouvions rien que pour le mal, ou pour un bien qui était non méritoire, et très dérisoire d'ailleurs. Et nous souvenant de ce que nous étions, rougissant de ce que nous étions, Et voyant ce que nous sommes devenus par la grâce, eh bien cela doit être le fondement de notre humilité. Si nous n'avions qu'à retenir ceci, que ceci de l'humilité, nous pourrions dire voilà une bonne façon d'être humble et d'amorcer l'humilité. Mais il n'y a pas que cela, et il faut aller un peu plus parce que le sermon est sur l'humilité aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Donc il y a une deuxième chose qu'il faut dire, une deuxième caractéristique de l'humilité, et ça, elle est capable de dissiper certaines erreurs qui pourraient avoir lieu si on comprenait mal le premier point. L'humilité, voyez-vous, mes très chers frères, était possible dans l'état d'innocence. On pourrait se dire, mais alors Adam, il ne pouvait pas être humble, parce qu'Adam, il n'avait pas fait la bamboula avant d'être créé. Il était dans l'état d'innocence. Avant, il n'existait pas. Dans la mesure où Dieu a insufflé dans ses narines le souffle de vie, il est devenu ce qu'il était, c'est-à-dire il est l'homme en état d'innocence, en état de grâce adamique, en état d'amitié avec Dieu, de rectitude, etc. Donc, aucun moyen de s'humilier puisqu'il n'avait rien fait de mal avant. Non, mes très chers frères. Car l'humilité pour nous consiste à savoir ce que nous étions autrefois et ce que nous ne sommes plus, c'est-à-dire ce que nous sommes devenus par la grâce, mais l'homme en état d'innocence pouvait être humble. Comment pouvait-il être humble? Par la connaissance de la raison d'être de l'homme, par la connaissance de la raison d'être de la nature humaine, par la connaissance de sa finalité, par la connaissance, pour tout dire, de sa relativité à Dieu. L'homme en état d'innocence, et c'est ça qui malheureusement a fait défaut à Lucifer, et c'est pour ça qu'il a perdu ce beau nom et il est devenu Satan, eh bien, l'homme en état d'innocence, comme l'ange en état de probation, devait être humble en contemplant la raison d'être, leur raison d'être. Laissons de côté l'ange qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. L'homme, lorsqu'il se souvenait qu'il n'avait été créé que pour la gloire de Dieu, eh bien, il était capable d'humilité. Cette humilité, certes, ne s'appelait peut-être pas humilité, n'avait pas les mêmes formes dans l'état d'innocence qu'aujourd'hui, c'est certain, mais elle existait, voyez-vous. L'humilité, quand bien même nous n'aurions rien à nous reprocher, l'humilité est non seulement possible, mais elle est nécessaire par la connaissance de la relativité de la nature humaine à Dieu. La troisième caractéristique de l'humilité, mes très chers frères, c'est que l'humilité, alors, il faut le dire, même si ça s'adresse plutôt à des orgueilleux, mais il faut le dire, parce qu'une erreur doit toujours être dissipée, dans la mesure où elle existe. L'humilité n'est pas la négation de la nature. Vous voyez, souvent, les gens qui sont des crypto-orgueilleux disent « Oui, mais regardez, je suis intelligent. » Je ne vais pas dire « Non, je ne suis pas intelligent. » Regardez, je suis intelligent. Regardez tous les diplômes que j'ai, de toute évidence, ce n'est pas une illusion. Donc, je ne peux pas dire « Par humilité, donc je suis bête. » Alors, croyez-moi, l'humilité n'est pas la négation de la nature. L'humilité n'est pas la négation des choses dont nous pourrions être fiers, paradoxalement. L'humilité, c'est un état d'esprit de la nature ordonnée. On n'est pas humble quand on est intelligent, par exemple, intelligent ou fort, ou quelles que soient les bonnes choses, les vertus que nous, ou les avantages que nous a donné la nature, on n'est pas forcément humble quand on les nie. Un saint Bernard, par exemple, qui était très humble, n'a jamais dit « je ne suis pas un excellent négociateur entre les princes et dans les affaires du clergé, je n'ai pas le talent pour faire la leçon au pape ». Il n'a pas dit ça, puisqu'il l'avait. Il l'a fait, il a couru par toute l'Europe pour mettre la paix entre les laïcs et entre les clercs, il a écrit ce fameux traité de la considération au pape, de telle sorte qu'il a été le directeur de conscience du pape de l'époque. Vous savez très bien quels ont été ses combats pour la foi, ses combats pour la doctrine, ses combats contre les hérétiques, ses combats contre toutes les nouveautés qui commençaient à apparaître dans les universités, etc. Vous savez quelle a été. Il n'a jamais dit par humilité « je ne suis pas ce que je suis ». L'humilité, voyez-vous, cher orgueilleux, qui n'est certainement pas Saint Bernard, l'humilité ne consiste pas à nier la nature, soyez rassurés. Mais l'humilité est un état d'esprit, un certain état d'esprit de la nature ordonnée. Lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est fort, lorsqu'on a des talents pour ceci ou pour cela, et qui n'en a pas sous un certain rapport, même l'être le plus faible, le plus dégénéré du monde, a quelque chose pour lequel il puisse être redevable dans la gratitude vis-à-vis de Dieu, ne serait-ce que l'existence et la promesse d'une vie future s'il persévère et s'il porte du fruit selon son état dans sa mesure. Donc, vous voyez, l'humilité n'est pas la négation de la nature, ce qui c'est une absurdité qui n'a jamais été enseignée par l'Église, ni par quiconque d'ailleurs. L'humilité est un certain état d'esprit de la nature ordonnée. Dans la mesure où l'on est intelligent, fort, habile, que sais-je, et que l'on est ordonné à Dieu, on a conscience que c'est une sorte de sacrilège que de s'approprier ce que la nature nous a donné. Après tout, comme je le cite assez souvent, les stoïciens étaient capables de dire « Mais comment un homme bon, grand, intelligent, etc., de bien né, comme on dit, pourrait-il être orgueilleux de ce qu'il est, puisque ce qu'il est, c'est la nature, ce sont ses parents, c'est l'éducation, c'est le hasard, si vous voulez, enfin au sens commun et banal du terme, ce qui le lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait si, par exemple, il a les yeux bleus ?» et qu'il s'enorgueillit d'avoir des yeux bleus, mais qu'a-t-il fait pour avoir les yeux bleus? Il aurait tout aussi bien pu avoir les yeux d'une autre couleur. Qu'a-t-il fait? Il est très orgueilleux, bon, c'est peut-être plus vrai pour les dames, pour les filles, mais elles ont des yeux bleus, etc., c'est très beau. Pourquoi s'enorgueillir? Vous voyez, l'humilité, et même chose, alors évidemment, alors vous allez dire, oui, mais l'intelligence, les diplômes, c'est pas la nature qui me les a donnés. Oui, mais si vous n'aviez pas eu ces facultés, ces facilités qui vous ont été données par la nature, ou cette faculté de les acquérir qui vous a été donnée par la nature, vous voyez, vous êtes favorisé par rapport à un autre, mais dans le fond, vous n'avez rien fait pour avoir cette... Donc, celui qui est ordonné à Dieu, celui qui est vraiment humble, ne passe pas son temps à nier ce que la nature lui a donné, mais il est dans un certain état d'esprit où il lui apparaît évident qu'il serait une sorte de sacrilège que de s'approprier ce que la nature lui a donné et de ne pas l'utiliser pour Dieu et le faire revenir vers Dieu, sachant que la nature n'est autre que le masque dont Dieu se couvre pour faire les choses à un certain degré de la création, de la réalité. Donc vous voyez, mes très chers frères, l'humilité, je le répète, pour tous les orgueilleux qui ont peur de l'humilité ne consiste pas dans la négation de la nature. L'humilité est un certain état d'esprit de la nature ordonnée qui lui rend évident le retour à Dieu et le refus de l'appropriation. Une quatrième caractéristique de l'humilité, mes très chers frères, est la conscience de la station. La conscience de la station dans tel ou tel degré du corps mystique du Christ, et donc c'est de la présence c'est le fait d'avoir, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait d'avoir la présence du tout à l'esprit, dont nous ne sommes qu'une partie. Nous parlons du tout de l'Église, dont nous ne sommes qu'une partie. C'est la conscience du caractère finalement accidentel de la partie face au tout dont elle est partie, dont elle fait partie. En un mot, cet aspect de l'humilité se résume dans la crainte filiale. C'est-à-dire qu'à quelques degrés du corps mystique, du degré hiérarchique du corps mystique que nous nous trouvions, l'humilité consiste à comprendre que nous pourrions ne pas nous y trouver. Je suis père de famille, je suis évêque, je suis mère de famille, je suis dans tel ou tel état, je suis dans tel ou tel métier, je suis dans tel ou tel degré de responsabilité, que sais-je? Que je n'ai reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Vous voyez, je sais aussi très bien que si j'occupe telle place, spécialement, c'est surtout vrai dans les places dans l'Église, si j'occupe telle place, c'est qu'il n'y avait personne d'autre pour l'occuper. Et donc Dieu a dû prendre un minable comme moi pour lui confier le sacerdoce, l'épiscopat, que sais-je. Vous voyez, ce n'est pas la négation de la nature, c'est le fait de savoir que si Dieu avait voulu, il aurait mis quelqu'un de bien plus compétent à notre place. Alors on ne va pas dire faute de grive on mange des merles, c'est pas assez ça parce que Dieu fait ce qu'il veut. Mais il faut se souvenir que, vous le savez très bien, sous un certain rapport, on dit que les élus ont été aimés par Dieu et donnés au Fils, afin que leur multitude comble le défaut laissé par le défaut de numérique laissé par la défection des anges qui ont suivi Satan. Vous voyez, alors, sans entrer dans les détails, l'humilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou paradoxalement, l'humilité consiste à avoir conscience d'être une partie accidentelle d'un tout que l'on n'a intégré que par grâce. Si Dieu ne m'avait pas donné à moi la grâce incompréhensible de la conversion, c'est-à-dire de la foi, eh bien je serais comme mon frère, je serais comme mon cousin, je serais comme mon voisin, que sais-je, un mécréant. Pourquoi Dieu m'a-t-il... Pourtant, je connais, mon cousin est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pieux sous un certain rapport, il est dans une fausse religion, mais il a de la piété, il est beaucoup plus intelligent pour comprendre les subtilités de la déologie que celle, et moi qui ne suis ni intelligent, ni particulièrement porté à la piété, Dieu m'a converti. Pourquoi ? Eh bien, nous ne saurons jamais pourquoi, évidemment, mais en tout cas nous saurons ce que nous devons en faire de cette question. Elle doit nous rendre humbles. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je puisse passer par tous les degrés de la hiérarchie et arriver au sacerdoce. Pourquoi moi et plutôt qu'un autre ? Eh bien, justement, cela doit me rendre humble. Parce que c'est un grand privilège, et puis c'est en même temps une grande responsabilité. Donc, vous voyez, l'humilité, lorsqu'on l'a approfondie, et qu'on a dépassé simplement les premiers stades, l'humilité se confond avec la crainte filiale. La crainte filiale, c'est la crainte de déplaire à Dieu. On n'en est plus à dire oh non, pas vraiment, mais enfin quand même un petit peu. Non, on a dépassé ça. On comprend que ce n'est pas l'humilité, c'est se moquer de Dieu en réalité. L'humilité consiste à dire mon Dieu, pourquoi moi et pas un autre ? Et à dire immédiatement après, eh bien, mon Dieu, donnez-moi de persévérer, donnez-moi de ne jamais vous déplaire, donnez-moi de ne plus jamais vous offenser, donnez-moi de ne plus jamais céder à la concupiscence. Voilà, ce sont les paroles mêmes de l'humilité. Donc vous voyez, cher orgueilleux, l'humilité ne consiste pas à nier l'évidence de votre excellence. L'humilité, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus subtil. L'humilité consiste à être tellement conscient de n'être rien que l'on fasse tout pour avec l'aide de la grâce de Dieu, pour se conserver dans la participation à ce corps mystique de l'homme-Dieu. Et vous allez voir qu'il y a encore des choses encore plus glorieuses à voir. Un cinquième point, si vous voulez, une cinquième caractéristique de l'humilité, c'est que l'humilité n'est pas un refus de servir. Alors vous allez dire, bien sûr que non, ça c'est Lucifer, je ne servirai pas, etc. Oui, non, l'humilité, oui, non, mais il ne s'agit pas de ce refus-là, ça c'est de la désobéissance. Et le refus de servir consiste à, par exemple, ne pas vouloir être mis en avant, donc du coup, ne pas vouloir assumer les charges de son état, de telle sorte à rester humble. Le problème, c'est que, imaginez une mère de famille qui serait une excellente ménagère, par exemple. Je sais que toutes les mères de famille sont d'excellentes ménagères. Si la mère de famille, qui à chaque fois qu'elle fait un repas est louée, par humilité, voulait éviter les louanges et se mettait à mal faire à manger, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est véritablement humble ? Non ! C'est tout simplement que, bon, elle est naïve peut-être, et mal conseillée sans doute. Alors, en fait, elle n'a pas demandé, personne ne lui conseillerait jamais de faire ça. Mais naïve peut-être, mais d'une certaine manière coupable, certes. Parce que c'est un fait que de se sentir porté à l'orgueil et de ressentir vivement la tentation de l'orgueil, et puis c'en est un autre que de ne pas assumer son devoir. Je dois bien faire à manger. Parce que c'est ainsi que j'honore mon mari et que j'élève mes enfants, parce que si les enfants mangent tout le temps des choses mauvaises, ben ça, d'une certaine manière, ce n'est pas une éducation qu'on leur donne. Donc, il se trouve qu'au péril de l'orgueil, je dois bien faire à manger, afin que je puisse me sanctifier en faisant mon devoir d'État à la perfection, comme nous avons vu la semaine dernière. Il se trouve donc, mes très chers frères, l'humilité n'est pas un refus, ne se manifeste pas par un refus de servir. Vous voyez, servir consiste à être docile au Saint-Esprit. Si il se trouve que l'on doit, parce que l'on sert, et parce qu'on on contribue à l'utilité de l'Église, à quelque degré que l'on soit une mère de famille qui apprend à faire à manger, à bien faire à manger, et qui sert de bons plats, qui cuisine bien les produits qu'elle a, elle est utile à l'Église. parce qu'elle serait inutile à l'Église, et elle serait même nocive à l'Église, c'est-à-dire à certains membres de l'Église qui sont dans son entourage proche et dont elle a la responsabilité, eh bien si elle n'assumait pas son devoir d'État, quelque petit qu'il soit, et il n'est pas petit en réalité. Donc voyez, mes très chers frères, si nous désistons par humilité, ce n'est plus de l'humilité, c'est une forme de révolte. L'humilité ne consiste donc pas toujours, mes très chers frères, à éviter les louanges. C'est paradoxal, mais à les faire remonter à Dieu, de telle sorte que la mère de famille n'est pas obligée de crever d'orgueil à chaque fois qu'on lui dit qu'elle cuisine bien. Elle peut dire déjà que c'est peut-être sa mère qui lui a appris à bien cuisiner, je l'espère, et si c'est pas le cas, bon, comme ça arrive malheureusement souvent, elle peut dire, eh bien, Deo gratias, eh bien, merci, Dieu soit béni pour cette bonne nourriture, merci à Dieu pour les bons produits de la terre, que sais-je. Vous voyez, il y a toujours une façon de manifester l'humilité en rapportant les louanges vers Dieu, en les détournant de soi-même, même si on les mérite, et de telle sorte que, vous voyez, l'humilité n'est pas un refus univoque de recevoir des louanges. Et ça, évidemment, l'orgueilleux de tout à l'heure ne peut absolument pas le comprendre, puisque pour lui, l'humilité, c'est s'écraser, c'est être minable, etc. J'espère qu'entre-temps, il a changé d'état d'esprit et qu'il a compris. Donc l'humilité, voyez-vous, mes très chers frères, n'est pas incompatible avec les louanges. Il suffit simplement de les retourner, de les détourner vers Dieu, et ainsi, l'humilité sera sauf et le service que nous devons à Dieu par l'intermédiaire de ces créatures sera assumé, parce que nous devons, souvenez-vous, nous devons avant tout faire ce qui relève de notre devoir d'État, quelques louanges que cela doive nous attirer. Il se trouve, mes très chers frères, qu'un sixième point, une sixième caractéristique de l'humilité est, vous l'avez compris, la non-appropriation de l'effet des grâces par la glorification du nom divin. Saint Bernard dit ceci: c'est une vertu bien grande et bien rare de faire de grandes actions et de ne pas se croire grand. De faire de grandes actions et de ne pas se croire grand. De ne pas connaître sa sainteté quand elle est connue de tous. De paraître admirable aux autres et méprisable à soi-même. Saint Bernard savait quelque chose. Nous avons dit il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, que dans l'objectivité, la lumière de l'objectivité totale que tous auront lors du jugement dernier, les justes en viendront même à ne plus voir que leurs mauvaises actions et à oublier complètement, à perdre complètement de vue leurs bonnes actions, de telle sorte que ça soit le grand juge lui-même qui est à leur rappeler, le bon maître qui leur rappelle quand est-ce qu'ils l'ont vu étant nu, ayant faim, étant en prison, ayant soif, etc. Il leur dit, mais quand vous avez fait ceci, c'est moi que... Il leur rappellera tellement leur objectivité leur aura fait oublier tout ce qu'ils auront fait de bien. Eh bien, mes très chers frères, ceux qui sont vraiment justes de cette façon-là, ceux qui font vraiment le bien, eh bien, doivent savoir que l'humilité consiste à ne jamais considérer en soi-même que le mal que l'on fait. Non pas comme peut faire l'homme charnel, à dire par une sorte de perfectionnisme qui voudrait des louanges, mais qui ne tolérerait des louanges, de recevoir des louanges que dans la mesure où il estimerait y avoir totalement droit. Vous voyez, comme par exemple, vous avez un excellent artisan, pas chrétien du tout, mais un excellent artisan qui fait un meuble magnifique, comme ça, et lui sait qu'à un certain moment, quelque chose aurait pu être mieux fait. Et alors, les gens viennent, ils admirent le meuble, ils disent, on voit vraiment, vous êtes un maître, c'est merveilleux, ce meuble est parfait, parfait. Et lui dit, non, je sais très bien, regardez ici, alors, les gens disent, mais regardez là, voilà, si vous étiez artisan, si vous étiez maître dans l'art, vous sauriez que il fallait faire quelque chose, et je ne l'ai pas fait, etc. Et personne ne le voit, mais du... Tout le monde dit, mais non. Et cette personne dit, non, je refuse qu'on me loue parce qu'il y a un défaut. En réalité, cette humilité n'est pas c'est une forme d'humilité, si l'on veut, mais ce n'est pas de la vraie humilité. Parce que imaginez qu'il n'y ait pas ce défaut, mais alors là, la personne dirait, effectivement, c'est un chef-d'œuvre parfait. J'en suis conscient, et ma conscience de maître S. Ébénisterie témoigne que ce meuble est parfait. On est loin de l'humilité de tout à l'heure où il disait non, 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 je ne mérite pas vos louanges, je ne mérite pas vos louanges parce que je ne me les décerne pas, sachant que je pourrais avoir des louanges encore plus grandes si j'avais vraiment fait les choses parfaitement. Ce n'est pas d'humilité. Ce n'est pas d'humilité, alors ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que la plupart des gens colmatent leurs affaires, etc., et puis essayent de masquer les défauts et d'avoir le maximum de bons retours, évidemment. Bon, c'est vrai, c'est le propre de quelqu'un qui a une conscience professionnelle extrêmement délicate. C'est vrai, c'est rare, on ne va pas jeter la pierre, mais ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est un orgueil perfectionniste, et ce n'est pas d'humilité. Ça a les formes de l'humilité, mais ce n'est pas d'humilité. Voyez-vous, mes très chers frères, l'humilité consiste, alors, encore une fois, vous comprenez, on ne va pas jeter la pierre à des gens rarissimes, alors que la plupart du temps, les gens veulent faire passer leur camelote pour des choses excellentes. Néanmoins, sachons dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas d'humilité. L'humilité consiste à se méconnaître soi-même. Vous voyez, il ne s'agit pas de savoir qu'on a tel ou tel défaut, il s'agit de méconnaître qu'on a fait telle ou telle œuvre bonne. Alors, évidemment, ça ne s'invente pas. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant de méconnaître et que chaque fois qu'on a fait une œuvre bonne et puis qu'on dit « Ah, mais merci d'avoir fait ça », on dit « Ah, mais comment ? Mais non, mais quand est-ce que j'ai fait ça ?» On n'est pas encore au jugement dernier, on n'a pas encore... Sachant dire simplement « Oh, ben écoutez, Deo Gracias, ça m'a fait plaisir de vous aider. » Voilà, c'est tout. Et puis comme ça, on en sera humble. Plutôt que de dire « Oui, que feriez-vous sans moi ?» Bon, vous avez compris. Bon, d'accord. Mais il se trouve, mes très chers frères, voyez-vous que dans l'absolu de la volonté, dans l'absolu du cœur, dans le fond du cœur, celui qui est vraiment humble se méconnaît lui-même, car il sait que quelque parfaite que puisse être son œuvre, et quand bien même aurait-il conscience qu'elle est parfaite, tout le bien qui vient de lui, c'est Dieu qui le fait en lui. Certes, c'est lui qui a les mérites, certes, c'est lui qui l'a fait, certes, l'effort a été déployé par lui, mais au moment de rendre les comptes, au moment d'analyser tout ceci à la lumière supérieure de l'objectivité divine, c'est Dieu qui a tout fait, depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc voyez, mes très chers frères, l'humilité ne se connaît pas elle-même. À l'orgueilleux de tout à l'heure qui disait « Oui, l'humilité, c'est la négation des faits évidents, des faits, des points positifs de la nature », vous savez, nous dirions... Prenez conscience que ce n'est pas du tout nier les faits de la nature, les faits positifs de la nature. C'est, dès lors qu'ils sont surnaturalisés, les méconnaître dans l'absolu, non pas les méconnaître en tant que tels, mais les méconnaître en Dieu. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la grâce de Dieu en moi. Donc on ne va pas le dire non plus à tout propos, bien entendu, mais il faut le savoir, il faut en être persuadé. Et ça ne s'invente pas. Il faut avoir pratiqué tous ces aspects de l'humilité, les cumuler, les rendre habituels, pour que cela nous devienne quelque chose de connaturel, si l'on peut dire. Et une huitième caractéristique, mais enfin en un mot, l'humilité est le propre de celui... Eh bien, mes très chers frères, et c'est là où l'orgueilleux va, j'espère, va de tout à l'heure, va rougir de honte. L'humilité, qu'est-ce que c'est ? L'humilité, ce n'est pas le propre de celui qui fait semblant de ne pas être aussi bon qu'il est pour faire plaisir à Dieu. L'humilité, c'est le propre de celui, et l'expression que je vais utiliser est une expression utilisée par les mystiques tout à fait orthodoxes. Hein. L'humilité est le propre de celui qui est une humanité de surcroît au Christ. C'est-à-dire que l'humilité est le propre de celui qui n'est autre que un autre Christ dans le Christ. L'humilité, comme nous le disons souvent, ne consiste pas à faire une fleur à Dieu. « Ah, Dieu veut qu'on soit humble devant lui, donc je suis intelligent, je vais lui dire, mon Dieu, je ne sais rien, je ne sais rien, j'ai des diplômes, mon Dieu, regardez, je suis sans diplôme, et puis peut-être que ça lui fera plaisir. » Quel orgueil, quelle misère, quelle médiocrité que de s'imaginer que l'humilité, c'est de faire plaisir à un Dieu mesquin qui un peu comme quelqu'un qui a une voiture moins belle que vous, donc du coup, vous allez emprunter la voiture de votre grand-père pour ne pas l'humilier quand vous allez le voir, pour ne pas qu'il se sente écrasé. On parle de Dieu, mes très chers frères. L'humilité n'est autre que le propre de celui qui est un autre Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ disait « Je ne dis rien de moi-même, je dis tout ce que j'ai entendu dire au Père. » Je ne fais rien par moi-même, j'obéis à mon Père. L'humilité, et c'est là ce que le Nietzschéen ne pourra jamais comprendre du haut de sa médiocrité, c'est que l'humilité, c'est l'attitude de celui qui est Dieu. Dieu par participation, pour utiliser une expression de saint Jean de la Croix, vous voyez, l'humilité est absolument nécessaire au juste, et spécialement au juste, dans l'état de justice maximale. L'humilité est quelque chose qui est nécessaire à la créature dans la mesure où elle est Dieu, par participation. Vous comprenez que l'humilité, ce n'est pas telle ou telle attitude mesquine et flatteuse vis-à-vis d'un Dieu mesquin. L'humilité, c'est le bain, ou c'est le contexte mental dans lequel se trouve cette créature qui est si bien déprise d'elle-même qu'elle vit, non pas elle, mais le Christ vit en elle. L'humilité, c'est la méconnaissance de ce qui ne vaut pas la peine d'être connu dans cette créature qui est Dieu par participation. C'est-à-dire que dans la mesure où elle est tout en Dieu, elle est Dieu en Dieu, elle ne pense plus à ce qu'elle est, et ne plus penser à ce qu'elle est, c'est-à-dire cette chose, ce néant, duquel ne vient que le mal, s'appelle humilité aux yeux des hommes, s'appelle glorification aux yeux de Dieu. Glorification par Dieu aux yeux de Dieu. Vous voyez le mystère, le secret de l'humilité. Au-delà, on est au-delà de toute gloire créée, mes très chers frères, quand on a à l'esprit que le souvenir de son néant et la certitude que tout le bien en nous vient de Dieu, qui distribue à chacun comme il lui plaît, comme dit saint Paul dans l'Épître. L'humilité, c'est ce nécessaire détour de soi pour être tout en Dieu. Voilà, dans le fond, le secret de la doctrine de l'humilité. Alors, il nous reste à voir une chose, mes très chers frères, c'est comment vérifier, et en même temps, comment acquérir cette humilité. Comment vérifier qu'on l'a ? On sait ce qu'elle n'est pas. On sait ses fausses formes. On aurait pu dire beaucoup de choses, mais bon, nous avons dit l'essentiel, je crois, en tout cas pour aujourd'hui. Maintenant, comment savoir si on est vraiment humble et si on ne l'est pas ? En ce temps-là, Jésus dit cette parabole pour quelques-uns qui se complaisaient en eux-mêmes, se croyant justes et qui méprisaient les autres. Les vices les plus horribles, mes très chers frères, consistent dans l'imitation des vertus et dans leur captation, dans la captation des vertus par la vanité. Or, rien n'est plus aisé à singer, nous disent les moralistes, que les vertus les plus hautes. Il est plus aisé de singer l'humilité dont nous parlions que de singer la maîtrise art d'ébénisterie, par exemple. C'est une vertu, ça fait partie des vertus, le fait de savoir parfaitement maîtriser le bois. Évidemment, ça ne s'invente pas. Si on n'est pas maître dans cet art-là, ça se voit du premier coup d'œil. Tandis qu'on peut affecter les dehors de l'humilité, vous voyez. On peut être totalement incapable de faire des œuvres bonnes. En revanche, on peut être vissé sur son prie-Dieu, dans un état extatique, et à passer pour quelqu'un d'extrêmement pieux. La piété, effectivement, le ravissement en Dieu, ce sont des choses qui peuvent être des grâces. Il n'y a rien de plus facile à imiter, parce que c'est les choses les plus hautes. Vous voyez, lorsqu'un caricaturiste veut faire rire la galerie, qu'est-ce qu'il va imiter ? Il va imiter un ministre, il va imiter le président de la République, il va pas imiter son concierge, ou il va pas imiter son pote alcoolique et chômeur que personne ne connaît. Il va imiter, justement, ceux qui sont les personnages les plus en vue. Donc, voyez, mes très chers frères, les vices les plus horribles consistent dans l'imitation des vertus, et les vertus, de toutes les vertus, celles qui sont les plus élevées, sont les plus hautes, sont les plus faciles à imiter. Je dis bien imiter jusqu'à un certain point. Imiter ne veut pas dire pratiquer, mais c'est donner le change pendant un certain temps. voyez, mes très chers frères. Donc, l'humilité, qui est la vertu par excellence, si j'ose dire, enfin en tout cas dans le contexte de notre sermon, l'humilité est malheureusement la chose que l'on pourrait arriver à singer le plus parfaitement. Or, qu'est-ce que l'humilité ? Prise sous un autre angle. L'humilité, qu'est-ce que c'est ? C'est le contexte mental dans lequel est celui qui est tout en Dieu. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? L'humilité, c'est la charité appliquée. C'est l'amour de Dieu pratiqué de façon à participer à la bonté divine. Vous l'avez compris. La charité appliquée. Tiens, tiens. Mes très chers frères, la charité appliquée, quelle l'humilité, nous permet donc, de nous donne donc un indice, même une vérification infaillible, et j'ose le dire, infaillible, pour voir si nous sommes ou pas dans l'illusion de l'humilité. Méprisons-nous notre prochain ou pas ? Un auteur dit « On ne méprise les autres que quand on ne se connaît pas soi-même. » En effet, on ne peut être humble que dans la mesure où l'on se connaît bien soi-même. Se connaître bien soi-même, sans refaire toute la démonstration, c'est savoir que tout le mal vient de nous parce que de nous, finalement, nous n'avons de liberté que pour le mal. Nous n'avons de spontanéité, de tendance générale et native que pour ce qui est au moins, sinon le mal absolu, mais le désordre. Se connaître, bien se connaître soi-même, et en tirer les conséquences, c'est être humble. Or, bien se connaître soi, or mépriser son prochain, disent les moralistes, c'est ne pas se connaître soi-même. Donc lorsqu'on méprise son prochain, c'est qu'on n'est pas humble. Or, il se trouve, mes très chers frères, qu'effectivement, il y a une forme d'humilité qui peut s'accommoder, donc une illusion, mais qui peut s'accommoder du mépris du prochain. Le pharisien dans le temple était un homme juste. Lorsqu'il disait « Oh Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, le reste des hommes, heureusement, je ne suis pas voleur, injuste, adultère, et je ne suis pas dans un état structurellement ou dans un état de structurellement pécamineux, comme ce publicain qui est un bandit, un voleur, etc. » Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin, disons qu'il est dans un état de vie, qui a un métier illégitime, enfin, un métier pécamineux. Eh bien, Deo gratias. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de Deo gratias. Puisque, en fait, l'énumération des grâces, de l'effet de la grâce en lui, qui jusque-là peut être le fait de l'humilité, s'accompagnait du mépris envers le publicain, qui était effectivement un pécheur. Personne ne dit que le publicain, en réalité, c'était un pharisien déguisé, qui n'était, en fait, qui était très juste. C'était pas du tout. C'était un gros pécheur. Voilà, il n'y a pas de problème. Le mépris du prochain pécheur nous montre que, quelle que soit notre humilité devant Dieu, elle n'est pas de bonne aloi. Je ne dis pas qu'elle est feinte toujours, parce qu'elle peut être vraie, et dans la mesure où elle méprise, elle commence à péricliter, et très rapidement, nous allons même non seulement perdre l'humilité, mais aussi l'état de justice. Est-ce que je méprise mon prochain ? Mais mon prochain est méprisable, c'est un pécheur. Le pharisien ici ne méprisait pas le Christ, il ne méprisait pas les apôtres, il ne méprisait pas Dieu, il méprisait un misérable gredin qui se méprisait lui-même. Alors, il se méprise lui-même, pourquoi ne pas le mépriser ? Mes très chers frères, l'humilité, c'est que, et c'est là la grande leçon, si je n'avais pas reçu la grâce de Dieu, je serais comme lui. Alors évidemment, nous n'allons pas trop approfondir ici, disons juste en passant. Il y a une façon, évidemment, tout est piégé tout le temps, il y a une façon de dire si je serais semblable à lui, si j'avais pas reçu la grâce, donc du coup, je suis mon meilleur ami, je bois des bières avec lui, on fait les 400 coups ensemble. Attendez, il faut se séparer des méchants, il faut se séparer des pécheurs, il ne faut pas s'approcher justement de la familiarité avec les pécheurs, c'est évident. Je ne dis pas que sous prétexte qu'on serait comme lui s'il ne m'avait pas reçu la grâce, il faut le fréquenter, il faut en faire notre ami et il faut le laisser mariner dans son péché. Vous l'avez compris, c'est une fausse humilité. Là encore, même si elle est totalement différente de celle du pharisien. Maintenant, il se trouve que effectivement, il n'en reste pas moins vrai que l'humilité, qui consiste à se connaître soi-même et donc à se mépriser soi-même, c'est que si nous n'avions pas reçu la grâce de Dieu, nous serions comme lui. Donc l'humilité, tout en, en utilisant les règles de la prophylaxie chrétienne dont nous avons parlé ailleurs, etc., que nous venons d'évoquer, l'humilité, c'est au fond du cœur, au fond de son cœur, qu'il n'y a pas moyen de se, qu'elle n'a pas moyen de mépriser son prochain, parce qu'elle a le même fond que le prochain. L'orgueil anéantit devant Dieu toutes les bonnes œuvres, nous disent les théologiens. L'orgueil anéantit devant Dieu toutes les bonnes œuvres. Le mépris pour le prochain est une ingratitude envers Dieu. Car nous serions, nous l'avons dit, nous serions comme lui si Dieu ne nous avait pas fait la grâce de ne pas être comme le reste des hommes. Mais le mépris du prochain, voyez-vous mes très chers frères, quelque pécheur qu'il soit, nous fait passer de la justice à l'injustice en un seul instant. L'humilité, nous disent encore les théologiens, l'humilité couvre tous les péchés et tient lieu au pécheur de toutes les vertus, du moins dans ses commencements. Dans la mesure où nous sommes comme ce publicain qui se tenait dans le fond du temple, n'osant lever les yeux, et disait à Dieu, « Soyez apaisés envers moi, ô Dieu qui suis un pécheur », cette humilité-là l'a justifié devant Dieu. Tandis que l'autre qui faisait étalage des grâces de Dieu, comme si cela, comme s'il y avait une quelconque, quelconque mesure, celui-là n'a pas été justifié devant Dieu. L'humilité, mes très chers frères, l'humilité consiste à détourner les yeux de soi-même et à les garder sur Dieu seul. Souvenez-vous de Saint-Pierre, dont c'est la fête en mémoire aujourd'hui, une des fêtes, c'est Saint-Pierre qui, marchant sur les eaux, marchait sur les eaux dans la mesure où il regardait au Christ. Et dans la mesure où il a regardé à la tempête, il a commencé à couler. Dans la mesure où nous détournons nos yeux des choses vaines, c'est-à-dire de nous-mêmes, nous les fixons sur Dieu et nous pouvons perdurer dans l'état de justice. Dans la mesure où nous les détournons et où, même sans les poser sur nous-mêmes, nous les posons avec mépris sur notre prochain pécheur, eh bien nous coulons, happés avec lui, dans la tempête de la concupiscence. Mes très chers frères, l'humilité consiste à détourner les yeux de soi-même et à les fixer sur Dieu, dans lequel, eh bien, nous devons vivre, et dans lequel seul nous sommes véritablement capables de plaire à Dieu, puisque Dieu ne récompense en nous que ses propres dons. Que Dieu nous garde humbles, et sachons, mes très chers frères, si vous devez vous souvenir d'une seule chose, c'est que nous ne sommes pas humbles si nous avons encore du mépris envers notre prochain. Nous sommes humbles dans la mesure où nous avons la crainte filiale de Dieu et où nous rapportons tout à Dieu, que ce soit les louanges, que ce soit aussi les injures, etc. Dans la mesure où nous ne nous regardons pas nous-mêmes, mais nous regardons à Dieu, alors, mes très chers frères, nous sommes dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, dans lequel la fruition peut être pérennisée, peut perdurer jusque dans la vie éternelle avec l'aide de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.